Sébastien Paour pour l'info. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. 40 ans de cavale et finalement des aveux, ceux de Cesare Battisti, arrêté en janvier en Bolivie. Il reconnaît sa responsabilité dans 4 assassinats et s'excuse auprès des familles. Nous sommes à Rome dès le début du journal. Tapis rouge et contrat en or pour la visite du président chinois à Paris. Près de 30 milliards de commandes pour Airbus, 1 milliard d'euros pour EDF dans l'éolien. Au sommaire également ce soir, Nathalie Loiseau, tête de liste, et l'écologiste Pascal Canfin, numéro 2 sur la liste En Marche pour les européennes. 200 personnes à Nice en soutien à la militante d'Attaque, blessée samedi. La mort du musicien et chanteur Scott Walker. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, ce soir, au téléphone sonne, vous allez partir à la retraite. Vous ignorez sûrement comment vous pourrez partir à la retraite. Est-ce que vous savez réellement à quel âge vous pourrez partir à la retraite? Vous savez que la barre des 62 ans est toujours là, mais beaucoup de flou quand même autour de ces fameux 62 ans. La retraite, la vôtre, la nôtre, son âge, son financement, 01 45 24 7000.
Il aura donc mis 40 ans à formuler des aveux et des excuses. Cesare Battisti, l'ancien activiste d'extrême gauche, condamné en Italie à la perpétuité pour 4 meurtres qu'il n'avait jamais reconnus jusqu'ici, et arrêté en Bolivie mi-janvier après 4 décennies de cavale. Xavier Sartre, le procureur de Milan, annonce qu'il a reconnu sa culpabilité ce week-end et présenté ses excuses aux familles des victimes.
Tout ce qui a été reconstruit par la justice correspond à la vérité. Cesare Battisti, ancien membre des prolétaires armés pour le communisme, reconnaît tout. Le meurtre en 1978 d'un gardien de prison et ce, en 1979, d'un chauffeur de la police, d'un bijoutier et d'un boucher. Jusqu'à présent, Cesare Battisti avait toujours clamé son innocence. Ses aveux sont intervenus au cours d'un long interrogatoire à sa demande avec le procureur de Milan, Alberto Nobili, samedi et dimanche. L'ancien activiste alors confié « J'ai compris le mal que j'ai fait aux victimes. Je demande pardon à leur famille. » À l'évocation de cette période, il a reconnu éprouver de la gêne. Selon le procureur, l'ex-terroriste a voulu se dissocier et renier ce qu'il considérait alors comme une guerre juste. Il a également ajouté qu'il n'avait jamais bénéficié d'une couverture occulte, référence aux soupçons formulés en Italie sur d'éventuels appuis pour l'aider dans sa cavale à travers la France ou le Brésil. Mais du côté des victimes, ses aveux tardifs passent mal. Le frère du chauffeur de police assassiné met en doute la sincérité de ses paroles. Pour la plupart, il n'est qu'un assassin, aucunement un ancien idéaliste repenti. Rome, Xavier Sartre, France Inter.
Cesare Battisti a aujourd'hui 64 ans et il purge sa peine en Sardaigne. Donald Trump parfaitement serein au lendemain de la publication des conclusions du procureur Mueller. Pas de collusion entre son équipe et la Russie pendant la campagne de 2016. Quasi 2 ans d'enquête et à l'arrivée donc aucun élément pour prouver une entente avec Moscou. Le Kremlin qui réfute d'ailleurs de nouveau toute ingérence aux États-Unis. Le président américain lui voit clairement son horizon s'éclaircir. À 1 an et demi de la prochaine présidentielle, il n'a aucun problème avec la publication complète, dit-il, du rapport Mueller, et il estime qu'on ne peut plus laisser faire ça à aucun président. Trump qui reçoit à la Maison-Blanche le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
Il reconnaît formellement ce qu'il a annoncé vendredi, la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Tout cela alors que la tension monte à Gaza.
Oui, c'est vrai. Et la rencontre avec Benjamin Netanyahou était placée sous le signe de l'amitié entre les deux hommes, échange d'amabilité.
BB and I have known each other for a long time.
Our dear friend, Donald.
Bibi et moi, on se connaît depuis longtemps. Mon cher ami Donald, lui répond le Premier ministre israélien. Puis dans la diplomatic room de la Maison Blanche, les deux dirigeants font un point de situation autour de la bande de Gaza après ce tir de roquette la nuit dernière qui a fait 7 blessés au nord de Tel Aviv. Et ce soir, la réplique israélienne avec cet engagement ferme du président américain.
Les États-Unis reconnaissent le droit absolu d'Israël à se défendre. Et aujourd'hui, je signe cette proclamation historique qui permettra à Israël de mieux se défendre encore. Ainsi, la sécurité d'Israël sera encore plus forte et ce pays y a droit.
Et effectivement, Donald Trump signe le document qui reconnaît officiellement la souveraineté israélienne sur ce plateau du Golan, conquis en 67, puis annexé au début des années 80. Remerciement du Premier ministre d'Israël.
Israël n'a jamais eu de meilleur ami que vous. Vous l'avez montré quand vous avez décidé de vous retirer de l'accord désastreux sur le nucléaire iranien. Vous l'avez montré quand vous avez reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et que vous y avez déménagé votre ambassade. Et vous nous le montrez une nouvelle fois aujourd'hui en reconnaissant officiellement la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan.
Enfin, Sébastien Benjamin Netanyahou quitte Washington. Il s'en va plus tôt que prévu. Retour à Jérusalem en raison de la situation autour de Gaza.
Effectivement, Israël qui riposte aux tirs de roquettes depuis sur la région de Tel Aviv aujourd'hui. Riposte sur la région de Gaza. Merci Grégory Phillips en direct de Washington. Moscou redoute une nouvelle vague de tensions au Proche-Orient. Et la Syrie dénonce une atteinte flagrante à sa souveraineté. Le président chinois en visite en France n'est pas venu les mains vides. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Les deux chefs d'État annoncent en conférence de presse il y a quelques instants des contrats, notamment pour Airbus.
Oui, l'aéronautique qui tire une fois de plus le commerce extérieur vers le haut. Très grosse commande annoncée ce soir de 290 Airbus de la famille A320 ainsi que 10 Airbus A350. Montant total du contrat, près de 30 milliards d'euros. Un contrat préparé très en amont, notamment lorsqu'Emmanuel Macron s'était rendu en Chine l'année dernière. On avait évoqué à l'époque une possible commande de très gros porteurs A380. Finalement, ce seront des A320 et A350 plus rentables et plus faciles à exploiter dans les aéroports chinois. EDF signe aussi un important accord dans le domaine de l'énergie éolienne, un projet de parc éolien offshore au large de la province du Jiangsu, au nord de Shanghai. Enfin, il ne s'agit pas d'un contrat, mais plutôt d'une levée de barrières dans le domaine de l'alimentation. Cette fois, les volailles françaises vont de nouveau pouvoir être exportées en Chine. Fin de l'embargo qui avait été décrété fin 2015 à la suite des cas de grippe aviaire qui avaient été détectés dans le sud-ouest.
Et si Xi Jinping à l'instant souhaite une Europe unie et prospère dans cette conférence de presse, merci Fabien Cazot. Emmanuel Macron a aussi fait part à son homologue des préoccupations européennes sur le respect des droits fondamentaux en Chine.
La majorité présidentielle se met en marche pour les européennes.
La tête de liste de La République En Marche ne sera plus ministre ce soir. Nathalie Loiseau va démissionner pour mener la liste qu'on connaîtra en partie demain avec l'ancien ministre de François Hollande, Pascal Canfin, en deuxième position. Bonsoir Yael Gauz.
Bonsoir Sébastien.
Lui aussi a démissionné du WWF cet après-midi.
Oui, c'est Pascal Canfin. Sauf surprise, la fumée qui sortira ce soir du Burex, l'instance suprême de la REM, celle qui valide les candidatures, ce Burex, eh bien, lâchera une fumée qui sera encore un peu plus verte. Pascal Canfin, déjà approché en septembre dernier pour remplacer Nicolas Hulot au gouvernement, revient en politique. On évoque une deuxième place sur la liste. De quoi irriter ses anciens amis d'Europe Écologie Les Verts, son ancienne famille politique pendant 15 ans. Une trahison pour Yannick Jadot.
C'est incompréhensible qu'un écologiste sincère rejoigne aujourd'hui En Marche, sinon par la volonté peut-être de trouver un siège un peu chaud au Parlement européen.
L'amertume de Yannick Jadot au micro d'Élodie Forêt, et l'on pourrait se diriger vers un ticket Pascal Canfin, Nathalie Loiseau, dont c'était le dernier discours comme ministre à l'Assemblée cet après-midi, lors de la première rencontre du Parlement franco-allemand.
Nous sommes les débiteurs de Charles de Gaulle, de Konrad Adenauer, mais aussi de Robert Schuman, de Jean Monnet ou de Walter Einstein. Laissez-moi vous dire combien je suis heureuse de participer aujourd'hui à la première réunion de votre Assemblée. Ce moment comptera dans ma vie de ministre, dans une journée décidément particulière, à beaucoup d'égards.
Voilà, au micro d'Audrey Tison, Nathalie Loiseau, la REM et ses alliés, enfin dans les starting blocks pour affronter l'adversaire numéro 1, le RN, parti mi-janvier et au coude à coude dans les sondages. Derrière, Nathalie Loiseau a un savant dosage pour refléter le et en même temps de la majorité, au moins 4 modems éligibles, 2 ex-jupéistes du parti Agir, des marcheurs bien sûr, et notamment le directeur de campagne, ex-conseiller à l'Elysée, Stéphane Séjourné, qui devrait être en 6e position. Tout le monde sur scène samedi à Aubervilliers pour le premier meeting de campagne.
Merci Yael Gauz, Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts sera demain à 7h50 et effectivement premier meeting à Aubervilliers samedi pour cette liste République En Marche. Merci Yael. Leur premier déplacement à eux, c'était à Creil dans l'Oise. Le fondateur de Place Publique, Raphaël Glucksmann, tête de liste, et le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Premier déplacement avec notamment Laurence Perron, la visite de la maternité fermée de la ville est désormais transférée à Senlis.
La maternité fermée de Creil, c'est le parcours obligé de la gauche en campagne. Yann Brossat, pour le Parti communiste, y est passé, Benoît Hamon aussi. Ne prononcez surtout pas son nom devant Myriam, la passionnariat socialiste locale.
Benoît Hamon, je l'ai boycotté. Ce que j'ai pas aimé, c'est que la gauche réunie, on aurait pu faire au moins 10%. Là, on n'est pas sûr de faire 4.
Rapport au soleil, on n'est pas contre l'eau.
Ça se bouscule sur la nouvelle photo de famille. Olivier Faure, le patron du PS, parle d'ailleurs de Raphaël Glucksmann comme d'un petit frère. Devant Laurence Rossignol, l'ancienne ministre de Valls, ou Pierre Laroutourou de Nouvelle-Donne, il joue les rassembleurs.
Il y a des gens qui ont des remords, il ne faut pas les laisser vivre comme ça. Donc jusqu'au 6 mai, date du dépôt des listes, il y a une possibilité pour venir discuter.
Le fondateur de Place Publique, lui, ne veut parler que d'Europe, mais tout de même, le tapis rouge pour le président chinois.
Je suis étonné qu'Emmanuel Macron, qui promettait de renouer avec la France humaniste qu'à chaque fois qu'un dictateur arrive, il a le droit à Versailles ou au tapis rouge. C'est pas exactement fidèle aux promesses de campagne. On va essayer de faire une chose pendant cette campagne électorale. Non, mais ça va être compliqué, mais on va le réussir. Le moins possible, être dans le commentaire de l'action ou de la parole d'Emmanuel Macron, car le mystère est rompu. Il n'est pas Jupiter, il n'est pas un dieu romain, il est un homme comme les autres. Et d'ailleurs, il se plante souvent.
Escorté d'une nuée de micros et de caméras, les nouveaux alliés font un baptême de réunion citoyenne commune. Et là, comme promis, il ne sera question que d'Europe et d'urgence écologique.
Laurence Perron à Creil, direction à présent Le Mans, où il y a eu des affrontements une partie de la journée entre plusieurs centaines de forains et les forces de l'ordre. Bonsoir Delphine Ebnou.
Bonsoir.
Les forains qui refusent d'être installés hors du centre-ville, comme l'a prévu la mairie. Alors est-ce que le rendez-vous de cet après-midi avec la mairie a donné quelque chose ?
Alors c'était un rendez-vous téléphonique par sécurité, car la mairie a, comme vendredi, été évacuée. Et ce soir, le dialogue est complètement rompu. Il faut dire que la journée, vous l'avez dit Sébastien, la journée a été mouvementée au Mans. Autoroute A11 bloquée, voie SNCF paralysée, caravanes incendiées et violents affrontements entre forains et forces de l'ordre qui ont utilisé gaz lacrymogène et grenades de désencerclement. C'est donc depuis la préfecture de la Sarthe que le maire Stéphane Le Foll a remis les points sur les i.
Il faut un retour au calme et à la sérénité. Il n'y aura pas de discussion sous la pression. Il n'y aura pas de discussion sous la violence. On ne peut pas accepter que des élus soient menacés, que la mairie ait été évacuée deux fois et qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas un salarié qui a pu venir à la mairie avec les violences qui ont lieu ce matin.
Les forains qui sont environ 500 sont en train de réfléchir ce soir aux actions qu'ils vont continuer à mener. Mais tout à l'heure, depuis la place des Jacobins où ils veulent s'installer en centre-ville, ils l'ont redit, pas question d'être relégués. La mairie tue notre activité, a expliqué à sa sortie de garde à vue Stéphane Dubief, le vice-président du SIDUNATI, le syndicat forain.
La municipalité a décidé de déplacer le champ de foire et de le remettre sur ce site qui avait été dédié exceptionnellement le temps des travaux, qui est commercialement un fiasco, qui n'est pas en centre-ville, qui est en périphérie, qui n'est pas au grand passage. Et donc pour les forains, c'est une perte d'exploitation de 50%.
Dialogue de sourds, bras de fer, la journée de demain risque encore d'être agitée.
Delphine est venue en direct du Mans avec Laurent Macchetti. La famille de Geneviève Leguet porte plainte pour violence volontaire après la violente chute de la militante altermondialiste samedi dans le périmètre interdit à Nice, quand les forces de l'ordre ont chargé. Emmanuel Macron lui souhaite prompt rétablissement et sagesse dans les colonnes de Nice matin. On ne critique pas quelqu'un sur un lit d'hôpital, lui a répondu l'avocat de la septuagénaire, toujours hospitalisé pour plusieurs fractures au crâne. Bonsoir Marion Chantreau.
Bonsoir.
Ce soir, un rassemblement de soutien à Geneviève Leguet a lieu chez vous à Nice.
Oui, 300 à 400 personnes sont rassemblées sur la place Garibaldi où Geneviève, 73 ans, manifestait samedi, là où elle a été blessée à la tête. Des drapeaux tricolores, drapeaux pour la paix sont brandis, celui-là même que la militante altermondialiste arborait samedi. On veut dire stop aux interdictions de manifester, à la politique répressive du gouvernement. Des mots sont déposés au sol, posant la question « Vous n'avez pas honte, vous avez du sang sur les mains ». Une amie de Geneviève, de 71 ans, adhérente au Parti communiste, est venue en soutien. Elle condamne un dispositif policier disproportionné mis en place samedi. On risque sa vie en tant que manifestant aujourd'hui. Ils auraient pu l'arrêter, la placer en garde à vue, mais charger 40 personnes, gilets jaunes ou pas, c'est honteux. Simone, très choquée par les appels à la sagesse d'Emmanuel Macron, c'est d'une grossièreté et d'une indécence indigne d'un chef d'État. Les trois filles de Geneviève sont là aussi. Également, elles ont déposé plainte, vous l'avez dit, cet après-midi. Midi contre les forces de l'ordre et le préfet des Alpes-Maritimes pour violence.
Marion Chantreau en direct de Nice, merci.
Abdelkader Merah est-il complice de son frère Mohamed ?
C'est tout l'enjeu du procès en appel de l'aîné du tueur au scooter il y a 7 ans, presque jour pour jour. 3 militaires, puis un enseignant, 3 enfants abattus en 3 jours à Toulouse et à Montauban. Abdelkader Merah a été condamné à 20 ans de prison en première instance il y a un an et demi, la peine maximale, pour association de malfaiteurs terroristes, mais acquitté du chef de complicité. Son procès en appel s'est donc ouvert ce matin aux assises spéciales de Paris, Corinne Audouin, et l'accusation le présente toujours comme le mentor de Mohamed Merah.
Abdelkader Merah semble plus massif qu'à son premier procès il y a un an et demi. Accoudé à travers le box, il affiche la même attitude sereine, caresse parfois sa longue barbe noire. En ce premier jour, il n'a fait que décliner son identité d'une voix teintée d'accent du sud-ouest. Dans la salle, les parties civiles ont repris place. Les familles Le Gouad, Chenouf, Ibn Ziaten, Sandler se saluent. Pendant le rappel des faits, certains essuient une larme. Se retrouver dans cette même salle d'audience, c'est éprouvant pour Radia Le Gouad, dont le frère a été tué par Mohamed Merah le 15 mars 2012.
Réécouter comme ça les faits, c'est terrible. C'est d'une violence. On espère vraiment pouvoir arriver au bout pour pouvoir commencer le travail de deuil, le commencer seulement. Cette année a été très difficile, se remettre d'un procès comme celui-ci, forcément. Alors ici, on n'assistera pas à tout, mais les moments qui nous semblent le plus importants.
Cet après-midi, c'est l'autre accusé, Feta Malki, qui a déroulé son parcours de vie, celui d'une jeunesse délinquante dans le quartier des Isards à Toulouse. Jugée pour avoir fourni une arme à Mohamed Merah, Feta Malki assure n'avoir rien su de la radicalisation à l'œuvre dans sa cité. Il lance à l'avocat général « Vous en parlez comme s'ils avaient tous une grosse barbe, allez-y dans le quartier et vous verrez ». Au Palais de Justice de Paris, Yvan Turc, Corinne Audouin, France Inter.
Et le verdict sera rendu le 18 avril. Ce n'est pas la première, mais c'est l'une des familles les plus riches d'Allemagne. La famille Reimann reconnaît avoir soutenu le régime nazi. Elle a entre autres fait fortune grâce aux produits ménagers, Ludovic Piétenu, notamment la marque Calgon.
Deux ans avant l'accession d'Hitler au pouvoir, la famille Reimann faisait déjà partie des généreux donateurs de ce qui deviendra le régime nazi. Cela lui sera profitable puisque Reimann sera l'un des fournisseurs officiels de l'armée allemande et de toute l'industrie de l'armement, distribuant sa centaine de marques de produits ménagers. Le chef de la famille Calgon, comme l'a surnommé l'hebdomadaire Bild à l'origine de cette révélation, n'était pas un opportuniste mais un national-socialiste, un nazi convaincu, affirme un historien chargé par les héritiers d'enquêter sur cette période grâce aux archives familiales. Il décrit entre autres comment la famille Reimann a eu recours à près de 200 travailleurs forcés en 1943. Cette famille d'industriels, deuxième fortune d'Allemagne, dont la richesse est estimée à 33 milliards d'euros, a promis de faire un don de 10 millions d'euros à une organisation appropriée. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Allez Sébastien, c'est l'adversaire le plus sérieux avec la Turquie dans le groupe des Bleus pour les qualifications à l'Euro l'an prochain.
Oui, l'équipe de France de football reçoit l'Islande ce soir au Stade de France. L'Islande qui était allée jusqu'en quart il y a 4 ans et donc dont il faut se méfier. Bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
D'ailleurs Didier Deschamps parle des Islandais comme d'une équipe qui ne lâche rien.
Les Islandais ont rafraîchi l'image du foot depuis l'Euro 2016, c'est vrai, avec leur combativité, leur véritable esprit d'équipe, comme des guerriers à la rame ensemble sur un drakkar. Ils sont toujours dans le rythme, jamais fatigués, toujours prêts à donner un coup de tête sur une longue touche près du but ou sur un coup franc. Mais cette équipe n'est plus ce 11 merveilleux qui a fait tomber l'Angleterre à l'Euro, qui a rivalisé avec l'Argentine de Messi en Russie, qui a mené 2-0 à Guingamp en match amical face aux Bleus en octobre. Cette équipe a gagné, c'est vrai, vendredi dernier face au très faible 11 d'Andorre. Première victoire après 15 matchs sans succès. C'est une éternité qui a fait trembler toute l'île, pourtant habituée aux secousses plutôt sismiques. L'attaquant de pointe Johan Berg Gudmundsson est blessé ce soir et les Islandais vont sans doute perdre un peu leur âme. Tous derrière, à 5, sans doute effrayés par les enchaînements de Griezmann et Mbappé, les stars qui veulent encore tout gagner.
Merci Guillaume Batin, le match commence à 20h45. On termine avec la mort d'un grand talent de la pop qui fait partie de ces noms comme Burt Bacharach qui ne sont pas très connus du grand public mais qui influencent nombre d'artistes, de Radiohead au Last Shadow Puppets en passant par David Bowie. Scott Walker vient donc de mourir à l'âge de 76 ans. Le musicien américain, auteur, compositeur, interprète avait commencé sa carrière en trio avant de se lancer en solo, Mathieu Culeron, à la fin des années 60.
Scott Walker connaît le succès au milieu des années 60 avec son groupe les Walker Brothers, qu'il monte avec John Mose, mais au départ il n'est pas le musicien central du groupe comme il l'explique dans le documentaire 30th Century Men, produit par David Bowie.
Pour moi c'est devenu sérieux quand j'ai commencé à chanter avec les Walker Brothers. En fait c'était pas moi le chanteur principal, c'était John. Mais il y avait cette balade, Love Her, qu'il voulait faire et il fallait une voix plus grave. Ça a été pour moi un accident.
C'est dès son premier album, à la fin des années 60, que le chanteur américain devient une légende, notamment pour la scène anglaise. Il fait découvrir les chansons de Jacques Brel au monde anglo-saxon. On retrouve Mathilde et Amsterdam sur son premier disque. Mais ce sont ses propres textes poétiques et sa pop symphonique qui vont influencer des générations de musiciens, de Brian Eno à Thom Yorke, en passant par Pulp et Divine Comedy. Pour le jeune David Bowie, c'est encore autre chose, c'est un dieu. dieu, un héros. Écoutez la réaction de Bowie lorsque Scott Walker lui enregistre un message pour célébrer ses 50 ans.
This is Scott Walker. So have a wonderful birthday. So I'll have a drink to you.
Thanks.
Merci. C'est incroyable. Il est mon idole depuis que je suis enfant.
Expérimentateur sur la fin, Scott Walker aura marqué profondément la musique pop britannique. Songwriter d'exception, d'une pureté rare, il demeure une référence absolue pour toute une génération. It's raining
today. Et l'ancien chanteur de Soft Cell, Marc Almond, salue un absolu génie musical en Scott Walker.
Sébastien Paour pour l'info, ouais, c'est magnifique. Sébastien Paour, merci beaucoup. Le téléphone sonne, c'est dans quelques instants, à demain, Sébastien. Continuez à faire ce que vous faites, nous on s'occupe du reste.